Le cachet de Madame de Pompadour, milieu du XVIIIe siècle, lu par Anne Berest. En 1772, Voltaire écrivit à une amie avec une certaine indignation. Savez-vous qu'il paraît deux petits volumes de lettres de Madame de Pompadour ? Elles sont écrites d'un style léger et naturel qui semble imiter celui de Madame de Sévigné. Plusieurs faits sont vrais, quelques-uns faux. Peu d'expressions de mauvais ton. Tous ceux qui n'auront pas connu cette femme croiront que ces lettres sont d'elle. À l'étranger, on les dévorait, poursuivait celui qui avait autrefois familiarisé Madame de Pompadour avec les us et coutumes de la cour et lui avait fait perdre l'habitude de quelques impairs de langage. Il s'en irritait, car ce recueil de lettres était manifestement un faux. D'ordinaire, c'était plutôt les femmes qui écrivaient sous un nom d'homme. Mais là, un monsieur s'était manifestement permis de prendre la plume sous l'identité de la Pompadour, morte 8 ans plus tôt. C'était impertinent, mais divertissant. Et cela en disait long sur l'époque. Pour la première fois peut-être de l'histoire européenne, une femme pouvait acquérir pouvoir et prestige sans avoir besoin pour cela de naître dans l'entourage immédiat d'une tête couronnée. Madame de Pompadour, dont le nom est sans doute connu de tous, n'était pas noble. Elle venait d'une famille de la bourgeoisie financière parisienne. Si l'on en croit les frères Goncourt, à la langue toujours acérée, Jeanne-Antoinette Poisson, tel était alors son nom, fit la connaissance du roi en se plaçant à la lisière de la forêt, juste sur le parcours de chasse de Louis XV, tantôt vêtue d'azur dans un phaéton couleur de rose, tantôt vêtue de rose dans un phaéton d'azur. Comme la plupart des jeunes femmes du pays, elle était amoureuse du jeune roi, apparemment très séduisant, et voulait qu'il la remarque, ce qui finit par lui réussir. On raconte qu'elle se serait rapprochée lors d'un des nombreux bals masqués organisés pour les fiançailles du dauphin. Louis se dirigea vers elle, déguisé en arbre, et il semblerait qu'elle l'ait reconnu sous son feuillage. À la fin de la soirée, il la raccompagna chez elle, et l'affaire fut, pour ainsi dire, dans le sac. Le fait qu'elle soit mariée était accessoire. On régla rapidement la question en éloignant l'époux indigné. Le vrai problème résidait dans ses origines sociales. On savait que les rois de France, et Louis XV tout particulièrement, étaient friands de plaisirs extra-conjugaux et entretenaient des favorites. Nul n'y trouvait à redire. Mais mettre une parvenue dans le lit du souverain, voilà qui était de mauvais goût. Jeanne-Antoinette Poisson était la première favorite à ne pas être issue de l'aristocratie. Son installation à Versailles, l'achat d'un titre de marquise et surtout sa longue influence sur les affaires de l'État constituèrent un interminable scandale. Au sein du peuple, beaucoup la surnommèrent jusqu'à la fin « la putain du roi ». À Versailles, on faisait la grimace en prétendant bien savoir à quelle vil manège elle se livrait pour conserver la faveur du souverain. Aujourd'hui encore, on suppose par réflexe que pour acquérir le titre de maîtresse, une femme devait coucher et qu'elle ne restait en place qu'en se montrant particulièrement docile ou divertissante sur le plan sexuel. Ce qui a assurément pu être le cas, mais n'est pas tout à fait juste en ce qui concerne Madame de Pompadour. Sa relation sexuelle avec Louis XV ne dura même pas 5 ans. Le roi l'aurait trouvée froide et insensible. Au lit, elle était, pour reprendre ses propres termes, une macreuse, oiseau aquatique qui passait pour avoir le sang froid. Pourtant, cela n'eut aucune incidence sur sa situation. La marquise ne fut jamais aussi puissante qu'au cours des 15 années qui suivirent la fin de sa brève liaison avec Louis. Elle fut la seule maîtresse royale à ne pas être chassée de la cour, où elle mourut à 42 ans. Ce cachet, qu'elle fit réaliser pour sa correspondance avec le roi, témoigne de la force du lien qui les unissait au-delà des histoires de coucherie. Elle en a sans doute passé commande au graveur sur pierre fine Jacques Gay, vers le milieu du XVIIIe siècle. d'une hauteur d'environ 3 cm. Il est en or et pierres précieuses, orné d'un camé. Sur le cachet est gravé un petit amour tenant des roses, avec l'inscription « L'amour les assemble ». On ne sait avec certitude si Madame de Pompadour utilisait elle-même ce cachet, ou si elle l'avait offert à Louis XV. Ce qui est sûr, c'est qu'ils entretenaient une correspondance assidue. La marquise était une de ses plus proches conseillères, et Louis, qui n'aimait guère son métier de roi, se fiait à son intuition. Ils avaient beau vivre l'un près de l'autre, les lettres constituaient un important moyen de communication. Madame de Pompadour était apparemment une grande épistolière, qui explique l'existence de la fausse correspondance dont il a été question plus haut. Sa publication, dont Voltaire déplorait en outre le succès, témoigne aussi de la place prise par l'écriture épistolaire dans la vie des femmes et l'estime croissante dont elles jouissaient. Qu'une femme écrive des romans ou des livres demeurait extrêmement rare. Qu'elle rédige dans ses appartements des lettres où elle exposait ce qu'elle pensait et vivait, inventant à l'occasion un détail ou deux pour donner à son existence une tonalité un peu plus excitante, nul n'y trouvait à redire. Et il arriva un moment où ces lettres ne furent plus nécessairement vouées à demeurer privées et où l'on put envisager de les publier. Sous la forme d'un recueil, comme la célèbre correspondance de Madame de Sévigné avec sa fille, dans laquelle Marcel Proust verra plus tard un modèle stylistique et qui suscita dès sa parution l'enthousiasme de ses contemporains, hommes et femmes, par son mélange de ragots de la cour de Louis XIV et de conseils avisés d'une mère à sa fille. Un certain nombre de femmes écrivaient aussi des romans épistolaires, telle l'Allemande Sophie von La Roche, qui connut un succès inattendu avec Die Geschichte des Fräuleins Forstenheim en 1771, traduit en français en 1775 sous le titre Les Mémoires de Mademoiselle de Sternheim. Aussi n'est-il pas surprenant qu'un homme et publier des lettres sous le nom d'une femme. La correspondance, avec son ton intime, était du ressort des femmes. Cela prépara le terrain pour la vague d'écrivaines qui allait suivre au XIXe siècle, où, comme Virginia Woolf l'écrivit à propos de l'épistolière anglaise Dorothy Osborne, si elle était née en 1827, Dorothy Osborne aurait écrit des romans. Si elle était née en 1527, elle n'aurait jamais écrit. Mais elle était née en 1627. Et bien qu'à cette époque il ait été ridicule pour une femme d'écrire des livres, il n'y avait rien d'inconvenant à écrire une lettre. C'est ainsi que peu à peu, le silence est rompu. Nous commençons à entendre des bruissements dans les fourrés.